L'appuntamento dell'Opera Studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est donc.
Les lents des roues, le.
En espagnol?
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Soyez les bienvenus sur les ondes de RDL 103.5 pour ce nouveau numéro des rendez-vous de l'Opéra Studio. Je reçois aujourd'hui Brigitta Listra, jeune contralto estonienne. Chère Brigitta, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Mais merci à toi d'avoir accepté mon invitation et de bien vouloir retracer pour nos auditeurs ton jeune parcours artistique déjà très riche. Et tout de suite, ma première question, qui est traditionnelle, puisque je la pose toujours à mes invités. Depuis quand fais-tu de la musique?
Ben oui, j'étais assez jeune. J'avais 3 ans. Et pourquoi? Attends, c'est un peu compliqué. La femme de l'oncle de mon père,
oui,
était un professeur de musique dans une école maternelle où elle a dirigé un chœur pour les petits enfants. Et sa fille, elle s'appelle Maria, est toujours une chanteuse assez connue en Estonie. Et c'est peut-être pour ça que mes parents s'en sont inspirés et ont voulu m'inscrire dans cette maternelle. Où je puisse commencer à chanter avec elle.
Oui. D'accord, c'est ça. Donc en fait, c'est une histoire de famille, finalement. C'est comme ça que ça a commencé. Et oui, puisque cette personne était dans le milieu éducatif, ben voilà, tes parents t'ont installé là. Et donc, tu as commencé, mais alors très très jeune, à l'âge de 3 ans.
Oui.
Oh là, oui, donc ta très jeune et riche carrière, c'est bien ce que je disais pour commencer. Et alors donc, l'élément déclencheur, quel a été pour toi? Parce que tes parents ont voulu t'inscrire là, ok. Mais est-ce que toi, tu as eu un élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, « Waouh, le chant, c'est formidable, j'ai envie d'en faire.
» Oui, vu que j'étais si jeune, musique et chanter, c'était toujours une partie de ma vie. Et d'ailleurs... chanter dans un chœur, c'est pas grand-chose en Estonie, dans les pays baltiques, parce qu'on a cette grande tradition chorale là-bas. Tous les monde chante, tous les monde sait chanter. Mais donc j'ai toujours chanté. C'est juste.
Oui, c'est ça. Et en fait, tu es rentré dans un chœur d'une manière tout à fait naturelle, puisque voilà, tout le monde chante, tout le monde chantait autour de toi, finalement.
Oui.
Oui, c'est ça. Tes parents aussi chantaient?
Oui, quand ils étaient jeunes. Oui. Ils avaient chanté dans le chœur, dans leurs écoles, oui.
Et donc, tu as fait des concerts. Et ton premier souvenir musical, c'est peut-être ton premier concert, non? Quel est ton premier souvenir?
Je n'ai pas un souvenir concret, mais j'ai des images. Je me souviens très bien de cet espace, cette salle. Et j'ai des petites images comme on a tous assis par la terre, sur des coussins et... Par exemple, on a essayé de prendre le rythme basique avec les mains comme ça. Et bien sûr, on a chanté les petites chansons pour les enfants. Oui, des choses comme ça.
Et en fait, après, donc là, tu étais très, très jeune. Tu étais vraiment une toute jeune enfant. Et ensuite, est-ce que tu as pris des cours de chant, j'imagine? En grandissant, tu as voulu... Te perfectionner et avoir un parcours plus académique pour étudier le chant. Ton premier cours de chant, comment s'est-il passé?
Oui, j'avais 14 ans, je crois. Et c'était avec une femme. Elle a chanté dans le chœur de l'Opéra National d'Estonie. Et Elle était une soprano. Et je me souviens pas concrètement qu'est-ce qu'on a fait, mais je sais que je me suis beaucoup bougée quand je chantais. Donc il me semble qu'on a peut-être essayé mais d'étendre un peu.
Le corps. Ah oui, tu bougeais beaucoup quand tu chantais. Et elle a essayé de faire en sorte que tu sois plus calme et que tu trouves. Oui, c'est ça, une façon, une posture plus tranquille. En fait, c'est ça. Et est-ce que, parce que les chanteurs, quand ils doivent travailler leur rôle, sont accompagnés par des pianistes, mais parfois, au début de leur travail de préparation, ils s'accompagnent eux-mêmes. Est-ce que toi, tu joues d'un instrument ? Est-ce que tu joues un peu de piano ?
Oui, mais donc c'était comme ça. C'était à l'âge de 12 ans que j'avais eu cette... donc je savais que je veux devenir une chanteuse lyrique et oui comme j'ai déjà dit j'ai toujours chanté mais je savais pas concrètement comment lire musique ou et tout ça et donc je me suis rendu compte qu'il faut que j'apprenne la musique, la matière de la musique.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire le solfège, reprendre tout de ça. Manière assez académique, oui, c'est ça, et puis aussi apprendre à chanter, parce que quand on est jeune, finalement, quand on est très jeune, on chante naturellement, et à mesure qu'on grandit, on perd un peu ce naturel, et donc c'est tout le parcours des chanteurs lyriques de retrouver ce naturel du chant et tout de faire fonctionner le corps pour que le son sorte de manière naturelle. Quoique vous, c'est naturel, oui, mais aussi il y a quand même un travail énorme parce que vous avez une voix très timbrée et vous travaillez pour passer au-dessus d'un orchestre. Donc ce n'est pas rien, ça c'est sûr. Tout de suite, je voudrais que nous écoutions le premier extrait que tu as choisi de nous faire entendre. Alors, il date de 1967 parce que, chère Brigitta, tu es très intéressée et tu as une passion particulière pour les artistes du passé. Et donc, nous allons ce matin écouter des enregistrements qui sont assez anciens. Donc, le premier, donc, comme je le disais, date de 1967. Et nous allons entendre le magnifique ténor italien Franco Corelli dans le célèbre air « E luce van le stelle », extrait de l'opéra Tosca composé par Puccini. Alors en quelques mots, Mario Cavaradossi, le personnage interprété par ici le Franco Corelli, est prisonnier et chante son désespoir et son amour pour Tosca avant d'être exécuté sur les ordres du méchant Scarpia qui est le chef de la police. Mario et Tosca sont amants et Scarpia est épris de Tosca et souhaite éliminer ainsi son rival. Nous écoutons Franco Corelli.
Oh,
magnifique interprétation de cet air de extrait de Tosca de Puccini par le célébrissime Franco Corelli, ténor magnifique. Alors on a entendu la joie du public et l'explosion de leur passion après avoir écouté cet air. Pourquoi, Brigitta, as-tu choisi toi-même cet air?
Donc cet enregistrement a tout à fait changé ma vie. Parce que c'était le premier enregistrement ancien que j'ai entendu. Et je ne me souviens pas comment je l'ai trouvé. Peut-être quelqu'un qui m'a envoyé. Mais oui. C'est juste une manière de chanter complètement différente. Et on comprend chaque mot. On comprend le sentiment, c'est une façon de chanter si expressive, si artistique, et avec un courage aussi. Et je ne savais pas que c'est possible. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y a un autre niveau. Et c'est peut-être qu'il y a des choses qu'on a oubliées comme chanteur. Dans le monde chant lyrique. Donc oui, ça m'a lancé sur un parcours pour découvrir tout cet héritage sonore.
Ça. Oui. C'est ça. Mais c'est un ténor magnifique. Il a une maîtrise du souffle sur ses notes filées qui tient, on a l'impression qu'il peut tenir comme ça indéfiniment. Il maîtrise parfaitement.
Ah oui.
C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est magnifique. C'est un très, très bel artiste, évidemment. Franco Corelli, merci de nous l'avoir, de nous avoir offert ce moment avec ce magnifique ténor. Alors, toi, tu es une contralto. Donc, on entend dans ta voix parler que tu es une voix plutôt grave, très riche, très sombre. Alors, pourrais-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est une contralto?
Oui, la contralto, c'est une voix d'une femme la plus grave. Ça veut dire qu'on a une soprano, une mezzo-soprano, et donc il y a le contralto. Et c'est une voix assez étrange, j'ai envie de dire, parce que c'est assez masculin. En particulier les profondes, les bas, parce qu'il y a cette extension vers le bas. Mm-hmm. Et la couleur de cette note là-bas, c'est peut-être parfois vraiment très masculin. Mais aussi la voix de la tête, de tête, et ça a parfois un air de contre-ténor.
Oui, contre-ténor. Oui, c'est-à-dire la voix plus aiguë chez les garçons, en fait. Tu te retrouves, toi, en étant dans les aigus de ta voix très grave de femme, finalement, à avoir des sons qui se rapprochent des sons de contre-ténor.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Oui, oui. C'est une voix très longue aussi.
C'est-à-dire très longue, ça veut dire, pour expliquer à nos auditeurs, c'est une voix qui a une amplitude assez grande, qui fait des sons très graves et des sons relativement très aigus.
Oui.
Donc, une palette, oui.
Oui, oui. Et assez difficile à gérer, je trouve. Trouver les bonnes voyelles, les bonnes résonances, c'est un peu difficile avec cette voix. Et c'est aussi une voix rare et c'est difficile de trouver les gens qui ont le savoir-faire pour cette voix. Et oui, c'est une voix chaude, spacieuse et sombre. Un peu triste, peut-être. Et oui.
Mais de toute façon, c'est ta voix, parce qu'on ne choisit pas sa voix. Tu es né avec cette voix. Et donc, si tu veux chanter, effectivement, comme tu dis, il faut que tu trouves les bonnes personnes qui vont te guider pour justement l'utiliser, savoir l'utiliser le mieux possible et te sentir bien, toi, dans ton corps, parce que ton instrument, ça reste ton corps, comme toutes les chanteuses et tous les chanteurs. Et donc, tu es venu à l'Opéra Studio, tu as passé une saison maintenant à l'Opéra Studio. Je me souviens très bien de ton audition que tu as passée l'année dernière et que tu as réussi. Bien, la preuve, c'est parce que tu es là. Et je voudrais savoir, parce qu'on n'a pas tellement le temps, on disait tout à l'heure hors antenne que quand on est à l'Opéra Studio, on a beaucoup de projets à monter, il faut penser à ce qu'on va travailler, les partitions, avec qui on répète et à quelle heure, mais qui, voilà, etc. Et on n'a pas le temps de se parler et de se connaître. Et maintenant, ce matin, je voudrais savoir, chère Brigitta, ce que tu es venue chercher finalement à l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin.
Donc moi, comme chaque chanteur ou chanteuse qui est à la fin de ses études, moi aussi j'ai envoyé mes applications partout. Mm-hmm. Le premier temps, j'ai reçu la réponse que donc merci pour ton application, mais on cherche pas les mezzo-soprano cette saison. Mais l'année prochaine, tu peux l'envoyer de nouveau. Et ça, je l'ai fait. Et j'ai été très surprise de recevoir l'invitation à passer une audition. Donc oui, je suis venue. C'était ma première fois à Strasbourg. Mm-hmm. Ça, c'est ce qui est drôle. Quand je suis arrivée, le jour de l'audition, j'ai vu une fille à côté de la porte d'accès pour les artistes. Et je dis « Hey, bonjour, est-ce que tu as déjà chanté? Comment c'est passé ?» Et elle a dit « Non ». Et elle a dit je demandais comment tu t'appelles, et elle a dit je suis Jessica.
Oh, Jessica, qui elle aussi est rentrée. Oui, oui, c'est mignon. Oui. Vous êtes retrouvées toutes les deux sans vous connaître, vous êtes rencontrées déjà avant. Oui. Ah bon, on a bien fait de vous prendre toutes les deux parce que c'était écrit. Et donc tu as passé ce recrutement à l'opéra, donc le recrutement se passe à l'opéra de Strasbourg, donc l'Opéra National du Rhin. Et parmi de nombreux candidats, donc il faut que vous sachiez que chaque année, nous recevons entre 300 et 400 candidatures, donc pour 8 postes. Donc c'est très, 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 très réduit. Et donc le niveau est très, très haut, forcément. Et donc on écoute toutes les candidatures. On écoute les deux airs qu'on demande de nous envoyer en vidéo. Et on sélectionne certains artistes à venir chanter en direct sur le plateau. Et c'est là qu'on choisit définitivement les artistes qui vont faire partie pour une année, pour une saison, qui feront partie de l'Opéra Studio. Et donc toi, tu es rentrée et tu as déjà passé une année et tu vas bientôt t'envoler et on parlera de tes projets plus tard. Je voudrais savoir quel projet lyrique tu as investi quand tu étais à l'Opéra Studio, sur quel projet à quel projet tu as participé durant ta saison à l'Opéra Studio?
Oui, mes premiers concerts étaient, c'est une tradition ici, c'est la carte blanche.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui,
c'est une possibilité pour nous à nous présenter sur le public. Mm. Mais après ça, mon premier projet était à l'Otello de Giuseppe Verdi, où j'ai eu la possibilité de chanter et jouer l'Emilia, mm-hmm. La copine de Desdemona. Ça, c'était vraiment la meilleure truc de la saison. C'était un cadeau pour moi, vraiment. Parce que j'ai eu vraiment une grande possibilité de me présenter là-bas. J'ai eu beaucoup de choses à faire sur la scène. Et puis, on a chanté deux concerts avec les filles, juste nous les filles. Et c'était un concert sur les compositrices ou compositeurs féminins, mm-hmm. et leurs chansons. Et ça, on a fait avec le soutien, le magnifique Patricia Petitbon. Et puis, on a fait Les Mamelles de Thérésia, de Poulenc.
Oui. Oui.
C'était un projet pour le studio.
C'est ça, c'est l'opéra volant de cette année, en fait.
Oui.
Il a voyagé dans la région.
Oui, on a presque tous participé, sauf Massimo. Mais c'était...
Oui, Massimo n'était pas... Normalement, c'était pour que tout le monde participe. Oui. Et Massimo a eu une opportunité d'aller chanter un rôle assez important en Italie, donc on l'a libéré. Il est allé chanter son rôle en Italie et on a fait venir un ancien opéra studio, Yannis Gossin, qui était libre par bonheur et donc qui est revenu le temps de cette production faire partie de la troupe des jeunes de l'opéra studio et donc sur ses Mamelles de Tirésias.
Oui, oui, c'était une vraie expérience parce que, oui, comme tu as dit, c'est à quatre de cet opéra volant. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup, beaucoup de spectacles partout dans la région d'Alsace. C'était vraiment comme une tour.
Oui, une tournée.
Oui, une tournée.
Mais oui, c'était une tournée.
Oui,
tout
oui,
à
oui,
fait.
Tout
oui,
à
tu
fait.
As raison. Oui, oui.
Oui, mais... qu'est-ce qui se passait? Ah oui, puis on a chanté à Mozart.
Oui.
Il y a eu deux concerts avec la musique de Mozart et avec l'aide de Dorothea Rochman.
Oui, oui, très bien, qui est venue en masterclass, oui. Oui, oui, en amont de ce concert.
Oui.
Tout à fait. Oui, oui.
Et puis,
le dernier projet, si je ne me trompe pas, ça va être...
Dans deux jours, c'est...
Ça va être, oui, le projet Carte Heure Lyrique Sondheim.
Sondheim.
Mais oui. Donc là, on a travaillé, vous avez travaillé avec Jasmine Roy, qui est évidemment spécialiste de ce répertoire. Donc voilà, des concerts, des opéras, des masterclass. Voilà, c'était ton quotidien à l'Opéra Studio. Et puis aussi les répétitions avec les collègues pianistes chefs de chant, parce qu'on a aussi deux pianistes chefs de chant, Thibaut Trouche et Annel Rétan, qui sont là au quotidien et qui travaillent avec vous et qui préparent avec vous justement tous ces répertoires que vous avez à savoir, à connaître par cœur, bien évidemment, dans des langues différentes, bien évidemment, etc., etc. Beaucoup de travail. Je voudrais qu'on continue notre incursion dans les enregistrements historiques que tu nous as concoctés, chère Brigitta. Alors là, on va remonter le temps puisqu'on va aller jusqu'en 1936. Il s'agit d'un extrait de Tristan et Isolde de Richard Wagner. C'est le duo d'amour entre les deux personnages. Donc, cet enregistrement est très ancien. Nous excusons pour la qualité technique, voilà, qui est un peu en deçà de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur nos ondes. Mais quand même, ça vaut la peine parce que vous allez entendre la magnifique Kirsten Malfrid Fagstad, qui est une chanteuse d'opéra norvégienne et qui a été surnommée la voix du siècle. Elle figure parmi les plus grandes chanteuses du XXe siècle. Donc, bon, ça vaut le coup de l'écouter, même si la qualité technique n'est pas au rendez-vous. Et puis, Tristan sera chanté par Laurits Melchior, qui, lui, est un ténor danois, qui fut naturalisé américain et qui est aussi l'un des plus éminents défenseurs du répertoire wagnérien. Donc, je vous laisse en compagnie de ces deux magnifiques artistes qui sont dirigés par le chef d'orchestre Fritz Reiner. Tristan et Isolde de Richard Wagner sur les ondes de RDL 103.5 dans un enregistrement historique de 1936. Alors pourquoi avoir choisi de nous faire écouter cet extrait, chère Brigitta?
Donc, Tristan et Isolde, c'est absolument mon opéra préféré. Et en particulier, cette douleur d'amour et... je crois que musicalement, c'est aussi mon moment préféré dans la littérature musicale. Moi, j'adore Wagner. Mais aujourd'hui, on sait, parfois, c'est un peu difficile à écouter, peut-être, parce que c'est long, c'est lourd, c'est fort. Et... parfois, il y a des voix qui sont un peu fatiguées, sont un peu, pas si bon, pas si belle. Mais évidemment, c'était pas le cas toujours, parce que Flagstaff et Melchior, ils avaient chanté ensemble pour des années et ils étaient vraiment les stars, les étoiles de leurs époques. Et c'est juste un monde complètement différent. On comprend les mots. On peut suivre le ligne musicale simplement, et les voix sont frais, sont beaux, sont claires. Et comme ça, on peut vraiment entrer dans cet monde musical, parce que il n'y a pas des choses qui te dérangent. Oui.
Je comprends. Ouais. Oui. C'est-à-dire, ça va à l'essentiel. La musique, la beauté de la musique, la clarté du texte.
Oui.
Et l'élégance du chant, en fait.
L'élégance du chant, oui, tout à fait.
En fait.
Oui.
Donc, c'est effectivement un parcours magnifique que de vouloir atteindre ce niveau-là. Et je pense que tu peux tout à fait. Hein, tu es très jeune, tu as beaucoup de belles choses à venir qui vont t'arriver, j'en suis sûre. Et c'est vrai que c'est... Mais oui, bien sûr, je t'entends travailler tous les jours, il n'y a pas de raison. Tous les jours, donc il n'y a pas de raison. Mais justement, tu travailles beaucoup, tout ça, ça demande beaucoup de travail, de concentration, de réflexion. Mais de temps en temps, tu te détends quand même. Et que fais-tu pour te détendre, pour un petit peu laisser aller?
Oui. Je suis une personne assez, comment dire,
introvertie.
Introvertie, oui.
Oui.
Donc ça veut dire j'aime bien être seule et c'est très important pour moi être seule, pour charger mes batteries. Je fais du sport et je dois dire, c'est une chose que j'ai commencé à faire beaucoup plus ici à Colmar, en fait, parce que la salle de gym est tout près de chez moi.
Ah, c'est pratique.
Oh, oui, c'est très pratique.
Oui.
Et c'est devenu une chose qui j'adore, en fait, aller à la salle de gym et ranger les poids. C'est
bien. Puis tu entretiens l'instrument qui va te permettre de chanter. En même temps, c'est bien.
Oui.
Et puis, comme ça, tu penses aussi, tu vides un peu la tête, je pense, quand tu oui. vas faire du sport.
Oui.
Et à ton avis, quelles sont les qualités requises pour être chanteuse d'opéra?
Je crois que la chose plus importante, c'est être résiliente.
Résiliente.
Oui, oui. Résiliente, oui. Et parce que c'est dur, c'est métier, c'est beau quand même, mais cette vie est dure. Et donc il faut être très forte mentalement. Avoir une bonne discipline de travail, oui. Donc être discipliné.
C'est ça, il faut être très discipliné. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est dur. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve tout seul. Quand on est soliste, eh bien, on est tout seul à chanter devant le chef, devant tout le monde, tous les collègues, devant tout de 80 personnes dans un orchestre. Enfin bon, et on est à ce moment-là, on est tout seul. Hein. Il faut défendre son truc. C'est vrai que. Et puis aussi, vous avez aussi ce côté nomade, vous les chanteurs d'opéra. Tu es estonienne, donc tu arrives oui. ici à l'Opéra National du Rhin, tu arrives à Colmar. Bon, il faut aimer prendre sa valise, il ne faut pas avoir peur de se retrouver tout seul dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des personnes qu'on ne connaît pas non plus. Et on vous demande d'être super performant dès le départ. Oui. Et vous devez trouver votre manière de fonctionner artistiquement et même socialement, en fait. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'à l'Opéra Studio, comme vous êtes un groupe de 10 artistes et on se voit tous les jours, vous vous voyez tous les jours, vous travaillez ensemble tous les jours, finalement ça crée un certain lien humain aussi qui est nécessaire, parce que c'est là aussi qu'on puise tous les sentiments et qu'on peut après travailler plus sereinement. Donc c'est vrai qu'il faut aimer, oui, il faut aimer à la fois être seul, enfin il faut pouvoir le supporter, et puis aller facilement vers les autres.
Oui.
Aussi dans ce métier, parce qu'on rencontre toujours des personnes nouvelles, chaque production, chaque projet, eh bien on regroupe des personnes qu'on connaît, et parfois qu'on ne connaît pas. Et parmi toutes ces productions que tu as faites, est-ce que il est arrivé une chose amusante, une anecdote, est-ce que il t'est arrivé quelque chose d'un peu incroyable?
Oui, je crois que cette mamelle de Tiresia était une vraie expérience.
Ah oui, qu'est-ce qui t'est arrivé?
parce qu'on a eu tellement beaucoup de spectacles et ça fait longtemps. Et je crois qu'on a tous souffert un peu. Thomas, mon collègue, est tombé malade, complètement malade, et on a chanté un spectacle complètement en douleur. Et je crois Inès aussi, et moi aussi, j'ai souffert, et les autres, et je crois que chaque personne
est tombée malade à son tour, en fait, finalement.
Non, oui, ou en quelque chose avec la voix, ou il y avait toujours quelque chose. Mais aussi sur la scène, on a fait des bêtises, parfois un peu de bêtises, les petites choses comme par exemple, il y a cette confetti au début.
Oui.
Et j'avais le nom, mais quelqu'un a pris cette confetti et a mis cette confetti sur dans chaque par exemple un glove, une handshoe.
Dans les gants?
Non. Dans les gants, oui, dans les gants, oui. Gants. Et dans les différents accessoires,
oui, c'est ça. Ah, un petit malin ou une petite maline, mais bon, j'ai une petite idée, mais bon, je ne dirai rien, à poser des confettis dans les accessoires de chacun. Et chaque fois que chacun prenait son accessoire, il y avait une pluie de confettis. Oui. Ah ben, c'est joli, ça, c'est le côté féerique, en fait, des mamelles de Tiresias, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui, mais parfois, on se fait des petites blagues sur la scène, mais bon, le spectacle a été parfait de toute façon. et puis, nous arrivons à la fin de cet entretien, chère Brigitta. Mais je voudrais avant tout, avant de nous quitter, je voudrais que tu nous parles de tes projets professionnels. Parce qu'après l'Opéra Studio, que tu vas quitter à la fin du mois de juin, tu pars pour de nouvelles aventures. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui va t'arriver?
Oui, en fait, ça va être l'année la plus chargée dans ma vie jusqu'à ce moment. Parce que je vais partir tout de suite à Salzbourg. En Autriche, où je vais faire partie, il y a cette Young Singers Project, c'est littéralement le projet pour les jeunes chanteurs, oui.
Oui.
Et où je vais chanter dans un opéra pour les enfants, il s'appelle Le Rat Rotus. Il utilise un peu la musique de Henri Purcell.
D'accord.
Et je chantais le rôle de Philidel, dans un esprit d'air. Et d'ailleurs, il y a un concert d'un opéra de Werner Henze, il s'appelle The Prince von Homburg, le prince d'Hambourg.
Oui.
Je vais chanter la troisième dame.
Oui.
Et bien sûr, il y a des masterclasses, les petits concerts et tout
et,
ça.
Et je crois qu'il y a un concert de gala aussi à la fin du mois d'août auquel tu vas participer.
Oui.
C'est ça. Et puis après cet été à Salzbourg, que va-t-il se passer pour toi en septembre? Parce que c'est très intéressant.
Oui. À partir de septembre, je vais m'intégrer dans le cadre de dans le studio, l'opéra studio de l'Opéra National de Hambourg.
Oui.
Et oui, ça veut dire.
Et là aussi, tu vas avoir beaucoup de rôles. Tu vas interpréter, c'est ça?
Oui. Je vais faire partie de 4 productions dans ma première saison, là.
Très bien.
Et je commence avec Wagner, en fait, la Valkyrie. Je vais.
Oui, que tu es en train de travailler là en ce moment, je crois, à l'Opéra Studio, je t'ai entendu. Tu travailles avec Thibaut.
Oui,
très bien. Mais oui, comme quoi, il faut travailler très à l'avance. À l'avance. Tu prépares ta saison déjà, maintenant.
Oui, c'est important,
bien sûr.
Oui.
Mais bien sûr. Bien sûr. Et en septembre, je crois que tu viens faire un petit tour à Strasbourg. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas venir faire à l'Opéra de Strasbourg?
Oui, ça c'est juste fou. parce que je vais chanter 2 concerts avec le ténor américain Michael Spires et l'orchestre philharmonique de Strasbourg avec Marco Lettonia. Et je vais chanter 2 duos. De Werther et Carmen, donc le plus grand répertoire de littérature française. Donc,
Oui. Ah ben là, tu vas pouvoir t'amuser pour le texte aussi. Là, il y a beaucoup de textes, donc tu vas pouvoir t'amuser. Mais je sais aussi que tu le travailles, je t'ai entendu avec Thibaut aussi, dans le duo de Carmen. Je vais finir avec les traditionnels portraits chinois. Nous allons terminer ensemble. Chère Brigitta, alors, est-ce que tu es prête? On y va?
Oui, on y va.
Alors, c'est parti. Si tu étais un animal imaginaire, qui serais-tu?
La licorne.
Si tu étais un peintre?
Caravaggio.
Si tu étais un paysage?
La toundra.
Si tu étais une année historique?
Zéro.
Zéro. C'est pas 1936, le fameux duo Tristan et Isolde. Non, bon, tant pis. Zéro, ok. Si tu étais un moment de la journée?
Minuit.
Minuit. Si tu étais une salle de concert?
Musikverein à Vienne.
Si tu étais un opéra?
Tristan et Isolde.
Eh oui. Si tu étais une artiste?
Moi-même.
Moi-même, très bien, tu as raison. Si tu étais un type d'art?
La musique, bien sûr.
Et si tu étais un compositeur ou une compositrice?
Barthes, Arvo Barthes.
Justement. Mm-hmm. Si tu étais un musée?
Musée Unterlinden, ici à Colmar.
Très, très beau, c'est vrai. Si tu étais une œuvre d'art?
Sappho, de Charles Mangin.
Et si tu étais un trait de caractère?
Détermination.
Oui, je le crois. Très bien. Donc, nous allons nous quitter, chère Brigitta. Je n'ai plus qu'à te remercier d'avoir passé cet agréable moment ici. J'étais très heureuse de te recevoir. Nous allons nous quitter sur un extrait du concerto pour deux violons d'Arvo Pärt, d'ailleurs, Tabula Rasa, et c'est interprété par les deux violonistes Christian Avik et Midori. C'est Paavo Järvi qui dirige l'Estonian Festival Orchestra. Et avant de vous quitter, un grand merci à Peggy, toujours fidèle derrière ses consoles et ses manettes, avec un grand sourire. Merci Peggy. En avant pour la belle musique d'Arvo Pärt. Passez une très belle journée. Merci Brigitta. À très bientôt.